dawn of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah.
Bonsoir à tous et bienvenue en ce mardi 9 décembre pour une nouvelle émission de Génération Sport sur votre radio Radio G. Comme vous pouvez l'entendre, Faustin n'est pas présent ce soir, la voix que vous connaissez tant n'est pas présente ce soir. Je le remplacerai exceptionnellement, mais je ne suis pas tout seul puisque j'ai également du beau monde avec moi. On va commencer par Paul. Bonsoir Paul, comment ça va ?
Bonsoir Robin, comment tu vas ?
Ça va très bien. Toi, le week-end, niveau footballistique, pas trop compliqué, puisque on sait qu'il y a eu des petites défaites de ton côté.
Ouais, Marseille a perdu, mais bon, c'est pas grave. Le SCO a gagné, donc ça fait toujours du bien. Et puis bon, il y a toujours eu du spectacle. Et puis bon, on a une bonne semaine de LDC qui arrive et de Coupe d'Europe surtout, donc ça fait plaisir.
Exactement, on en parlera tout au long de l'émission. On a également un homme qui a passé certainement un mauvais dimanche soir en regardant la pelouse du Moustoir. Salut Mathéo.
Bonsoir Robin, bonsoir à tous. Effectivement, c'était assez terrible. J'ai vécu une rencontre, une des pires de cette saison, je pense. Devant le match contre Brest, devant le match contre Auxerre, qui était déjà des purges. On est habitué. Je pense que l'Olympique Lyonnais en prime time le dimanche soir, c'est une mauvaise idée.
Exactement. Bon, on en parlera de tout ça, tous ces résultats ouais. De Ligue 1, etc. Et puis voilà, on va parler comme d'habitude des actualités locales avec tout ce qui est hand, rugby, basket et le hockey sur glace notamment. On va également évoquer bien évidemment le SCO Foot plus en largeur. On va également parler donc, comme je l'ai dit, des résultats de Ligue 1 avant d'évoquer la semaine de Coupe d'Europe et notamment de Ligue des Champions qui commence dès ce soir d'ailleurs. On va également évoquer le tirage de la Coupe du Monde avant de faire une petite pause musicale et réenchaîner directement avec le mondial de handball féminin avant d'évoquer le biathlon et la F1. Et puis on terminera par un petit jeu que nous a concocté Paul comme à l'habitude de cette émission maintenant. Donc on va débuter sans plus tarder par les actualités locales, pardon. Et on débute avec l'UFAB qui a vécu une semaine en demi-teinte avec dans un premier temps une victoire 85-77 en Coupe de France mercredi dernier face au club de la Tronche-Mélan évoluant en deuxième division. Les Angevines affronteront Bourges, vainqueur de la compétition à 12 reprises lors du prochain tour, le 17 janvier à 20h. Ça s'est cependant mal passé pour nos féminines en championnat qui affrontaient à domicile ce samedi les joueuses de Charnay, deuxième au classement. Défaite 84-91, la cinquième défaite de la saison en championnat qui les place désormais à la huitième place. Prochain rendez-vous à l'extérieur dimanche prochain à 16h30 face aux Gazelles de Montpellier. Mais avant cela, il y aura un grand rendez-vous pour l'UFAB demain soir avec leur rencontre aller de play-off en Eurocup. Rencontre à suivre à 20h à Jean Bouin face à Villeneuve d'Ascq. Et vous pouvez d'ailleurs gagner vos places pour ce match grâce à Radio G et Génération Sport. Il y a 6 places à gagner au total. Il vous suffit de vous rendre sur le compte Instagram de Génération Sport et de suivre les instructions en story pour avoir une chance de gagner une des places en jeu. On enchaîne rapidement et on reste avec le basket avec maintenant l'EAB qui s'est imposé vendredi soir face à Vitré 79-66. Les coéquipiers de Baptiste Auger, qui finit meilleur marqueur angevin avec 16 points, auront uniquement céder le deuxième quart-temps 22-21 au Vitréen. L'UAB enchaîne donc avec une sixième victoire consécutive, ce qui lui permet de se hisser désormais à la cinquième place du championnat. Enfin, on termine le basket avec Cholet. Cholet Basket qui a disputé, tout comme l'UFAB, deux matchs cette semaine. Même tendance que les féminines angevines, une victoire et une défaite, avec dans un premier temps une élimination mercredi dernier en huitième de finale de Coupe de France face à Strasbourg à l'extérieur sur le score de 93-85. Mais les Choletais ont réussi à se rattraper ce week-end en championnat face à Limoges avec une victoire 91-88. Prochain match et déplacement le week-end prochain pour le Cholet Basket face à Lyon-Villeurbanne, deuxième au championnat, donc déplacement plutôt compliqué à venir pour les Choletais. On passe désormais au SCO Handball qui s'est incliné 42-35 samedi soir face aux Sceptors de Saran, en grande forme avec désormais 6 succès d'affilée. Dans un match spectaculaire et prolifique en but, les Angevins seront tombés sur plus fort que ce week-end. Alors qu'ils ont été menés durant presque l'intégralité de la rencontre et par des scores parfois conséquents, les hommes de Joël Da Silva se sont accrochés et auront longtemps nourri des espoirs malgré leur entame ratée, proche de revenir à plusieurs reprises à hauteur de leur adversaire du soir. Cependant, malgré une fin de match haletante, les Noirs et Blancs n'auront pas réussi à renverser le cours de la rencontre et s'inclinent finalement de 7 buts. Ce match place donc le SCO Handball à la 12e place avec un bilan de 4 victoires et 8 défaites. Prochain rendez-vous vendredi à 20h pour nos handballeurs une nouvelle fois à domicile face à Massy, bon dernier du championnat avec aucune victoire à son actif. Du côté du SCO Rugby, c'était un déplacement à Clamart qui attendait nos deux équipes. Ce fut une défaite pour l'équipe 1 en Fédéral 3 face à Clamart sur le score de 22-15 qui place désormais les Angevins à la 4e place du classement des équipes premières. Pour l'équipe 2, ça va toujours très bien puisqu'ils signent une nouvelle victoire face à l'équipe 2 donc de Clamart sur le score de 26-7 qui lui permet d'être en tête de son classement. Pour les Ducs, semaine chargée avec 3 matchs au programme, dont 2 face à Briançon, le premier mardi dernier à l'extérieur. Pour les Ducs, c'est soldé par une victoire pour les Angevins 4-1. Une victoire qu'ils ont tout de même dû aller chercher en prolongation. Cependant, le second rendez-vous vendredi soir à l'Ice Park, malgré qu'il ait été plus prolifique en but que le premier, n'a pas permis aux Ducs d'arracher un second succès puisqu'ils s'inclinent 5-4. Pour leur troisième et dernier match de la semaine, les Ducs avaient une nouvelle fois rendez-vous à l'Ice Park ce dimanche à 16h15 pour un match face à Marseille pour rattraper le match manqué à la maison face à Briançon. Et c'est chose faite puisqu'ils s'imposent 2-1. Après cette semaine, les Ducs d'Angers se placent à la deuxième marche du podium, derrière Rouen et place désormais à la trêve internationale avant un déplacement face à Nice le week-end des vacances. Et enfin donc, on va évoquer le SCO Foot bien évidemment avec une nouvelle victoire 1-0 sur la pelouse de Nice en grande crise sportive et extra-sportive ces dernières semaines. Une victoire acquise grâce à l'unique buteur Yacine Bekdim peu après la demi-heure de jeu, déjà buteur à Toulouse il y a 2 semaines, et donc 2 nouveaux buteurs après un magnifique mouvement angevin. Cette victoire, on va en parler plus en détail maintenant, mais elle fait vraiment du bien au SCO puisqu'elle permet aux angevins de poursuivre leur belle dynamique des derniers matchs, un petit peu freiné il est vrai par la défaite face à Lens, mais qui permet également au SCO petit à petit de grappiller des places au fur et à mesure des semaines, notamment comme on le répète autour de cette table, en ligne de mire la Coupe d'Europe pour nos Angevins qui sont désormais 11e à seulement 5 petits points des places européennes. Mais plus sérieusement, autour de la table, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette performance qu'on peut qualifier plutôt de sereine, plutôt de maîtrisée de la part des Angevins? Je ne l'ai pas évoqué, mais on a eu une exclusion peu après le début de la seconde période avec l'exclusion de Tom Louchet à la 52e minute. Mais voilà, on a senti une certaine sérénité et un certain calme, une certaine maîtrise, comme je l'ai dit, de la part de nos Angevins. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paul? Est-ce que t'es d'accord avec ce constat?
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté sérénité que les joueurs ont apporté à ce match. On a montré que cette équipe était solide, encore une fois, mais qu'il y avait un peu plus de calme dans un match peut-être où, on sait qu'il y a des problèmes à Nice, tout ce qui se passe et tout, ça joue un peu. Mais en fait, le SCO a su prendre son match à son compte en marquant ce magnifique but et cette magnifique action collective, comme tu l'as noté. Et du coup, a réussi derrière à jouer son jeu, continuer à jouer son jeu, à défendre quand il fallait. Encore une fois, un excellent Kofi qui fait toujours du bien. Et donc, faut continuer sur cette dynamique parce que, comme tu le dis, 5 points de l'Europe, mais bon, on s'éloigne encore plus de la zone de relégation.
Surtout, ouais.
Et faut espérer que ça continue comme ça. Comme on avait dit, après la trêve internationale, on a quand même 3-4 matchs qui vont pas être faciles, que ce soit un déplacement à Toulouse, la réception de Lens, le déplacement à Nice et la réception de Nantes. C'est quand même 4 matchs qui vont pas être faciles. Et pourtant, sur les 9 points qu'on a pu prendre depuis, on en a pris 6. Donc c'est quand même très impressionnant. Et cette équipe-là nous sublime chaque semaine et nous fait toujours du bien à avoir joué.
Exactement, et donc tu l'as dit, week-end prochain, derby face aux Nantais qui sont eux à égalité de points avec les dernières places. Et puis toi Mathéo, est-ce que tu as suivi un petit peu le match? Est-ce que tu rejoins Paul sur le constat d'une maîtrise de la part de nos enjoints?
Ouais, bien sûr, ça fait des années maintenant, je pense qu'on n'avait pas vu une équipe d'Angers aussi sereine, aussi sûre de ses capacités aussi quand même, parce que il faut le dire, là le SCO enchaîne contre des grosses équipes qui certes sont dans des zones de turbulence. On parle bien sûr de l'OGC Nice, 7 défaites de suite, toutes compétitions confondues, mais quand même réussir à faire ça face à une équipe de Nice en plus qui a pas non plus été horrible sur le terrain. Là on va affronter Nantes sur les dernières rencontres, c'est beaucoup plus morose que l'OGC Nice, parce que l'OGC Nice a des qualités techniques qui sont évidentes, et le SCO a su faire face à ces qualités techniques avec toujours un Kofi qui est impressionnant. Franchement, je pense que on le redit chaque semaine, mais on est peut-être sur le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début de la saison. Je pense qu'on se trompe pas si on
n'en
si
est pas loin.
Ça, on n'en est pas loin, effectivement. Non, après des regrets au niveau offensif, peut-être. J'aurais aimé voir un Sbaï plus incisif. Il a été intéressant. Il a quand même gagné des 1 contre 1, mais il n'a pas été aussi décisif que sur les matchs précédents. Après, il nous habitue aussi à un niveau de qualité très très haut. Donc forcément, et puis j'aurais aimé plus voir Sidiki Chérif aussi, mais face à une équipe comme Nice quand même, ça reste l'OGC Nice qui a des qualités individuelles encore une fois défensives qui sont réelles. Forcément, il peut pas non plus faire agir son plein potentiel. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Donc voilà.
Donc comme je l'ai dit, prochain rendez-vous lors du derby la semaine prochaine à domicile face aux Nantais, dont on va parler avec la suite de la Ligue 1 avec toi, Mathéo.
Bah oui, c'est ça, puisque la 15e journée de Ligue 1 a eu lieu et elle nous a réservé quelques surprises, notamment dès le match d'ouverture, puisque Brest recevait Monaco, et malgré le carton rouge reçu à la 70e minute de jeu par Ludovic Ajorque, les Bretons se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0. Plus tard dans la soirée, c'est Lille qui est venu à bout de l'OM sur le même score. Le samedi, Lens est allé chercher un nouveau succès sur la pelouse de la Beaujoire, 2-1, avec un nouveau but de Florian Thauvin, le troisième en deux matchs après son doublé face au SCO. Toulouse a battu Strasbourg 1-0, puis le soir le PSG a marché sur le Stade Rennais 5-0. Dimanche, le SCO a donc battu Nice. Le Havre et le Paris FC se sont quittés sur un match nul et vierge, et Auxerre renoue avec le succès face à Metz 3-1. Plus tard dans la soirée, l'OL aurait pu faire la bonne opération et s'est incliné à Lorient à 10 après l'exclusion d'Ensley Maitland-Niles. Au classement, Lens est toujours leader de Ligue 1, solide, seulement un point devant le PSG. Marseille complète le podium à 4 unités des Parisiens, égalité de points avec Lille. Malgré sa défaite, l'OL reste cinquième, et puis tout en bas, Metz est de nouveau dernier, égalité de points avec le FC Nantes, et à une unité d'Auxerre qui ferme la marge de la zone de relégation derrière le Havre et le Paris FC. Semaine prochaine, derby donc entre Nantes et le SCO. Nice devra impérativement se relancer après une 7e défaite de rang contre le leader Lensois. Des Lensois qui sont d'ailleurs proches de boucler le transfert d'Amadou Aïdara en provenance de Leipzig. Le Malien arriverait pour une somme dérisoire de 3 millions d'euros et parachèverait un contrat courant jusqu'en 2029, comme révélé par le journal L'Équipe. Je me tourne vers vous quand même avant de parler, peut-être potentiellement de revenir rapidement sur la grosse affiche de cette prochaine journée de Ligue 1. Aïdara, grosse recrue quand même.
Ouais, exactement, je te rejoins. Un bon, surtout au niveau du montant. Moi, je trouve que 3 millions, comme tu l'as dit, c'est un peu une somme dérisoire. Voilà, en provenant de Leipzig, un très bon joueur dont on a pu voir toutes les qualités. Donc, hâte de voir. Tu l'as dit, c'est cet été, cet hiver.
C'est cet hiver, ouais.
Cet hiver
potentiellement, donc, voilà. Après la CAN.
Ouais, certainement. Donc après la CAN. Donc ouais, hâte de voir ce que ça peut redonner en Ligue 1. Exactement.
Intéressant quand même, il aura un peu de temps de jeu à la CAN, il aura le temps de se relancer, ouais. Aussi, parce qu'il a joué 0 minute avec Leipzig cette saison.
Ouais, toujours pas cette saison, ce que je me disais.
On rappelle, 3 millions, un montant qui est 16 millions inférieur au montant auquel Leipzig l'a acheté, donc ça reste une belle affaire.
Pioche.
Exactement. Et puis Paul, je vais me tourner vers toi quand même pour parler de la grosse affiche de la prochaine journée de Ligue 1. Marseille-Monaco, on a quoi, 5 points, 4 points d'écart entre les deux équipes quand même. Donc Monaco peut potentiellement revenir un peu plus sur Marseille. Marseille qui doit absolument gagner après cette défaite face à Lille.
Tout à fait, Marseille est obligé, j'ai même envie de dire, de gagner. Car quand il y a une semaine, tu te battais pour potentiellement prendre la première place et que maintenant tu es à 5 points de la première place, ça fait quand même mal. Et tu as envie de te dire que les joueurs ont peut-être un peu d'ego et vont peut-être remettre de l'élan dans une période qui est à la fois bien en Ligue des Champions, parce qu'on gagne contre Newcastle il y a 2 semaines, et mauvaise quand tu fais nul contre Toulouse et tu perds contre Lille. Et j'ai envie de te dire que Monaco est un peu en dents de scie un peu aussi, enfin une victoire contre Paris, une défaite contre Brest, un nul contre Paphos en LDC. Donc c'est deux équipes qui ont besoin de points, qui ont besoin de gagner, et du coup bah on espère que ça sera un gros match et un gros choc comme on a l'habitude entre ces deux équipes.
Et puis une victoire de Monaco pourrait, comme chaque semaine, relancer aussi ce haut de tableau de Ligue 1 qui est si serré. Mais avant ça, l'OM va jouer en Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise.
Exactement, donc on va parler, comme tu l'as dit, de l'OM mais aussi de Monaco qui s'affrontent donc le week-end prochain, puisqu'après une semaine de pause, une nouvelle semaine de Coupe d'Europe a d'ores et déjà débuté depuis 16h30 avec un match exceptionnellement décalé entre le Kairat Almaty et l'Olympiakos qui s'est soldé par une victoire des Grecs 1-0 grâce à Jelson Martins à la 73e minute. Depuis 18h45, le Bayern de son côté accueille le Sporting Portugal et alors qu'ils étaient menés sur un contre son camp de Kimmich, le Bayern a réussi à inverser la tendance ces dernières minutes avec un but de Serge Gnabry et un deuxième but de Lennart Karl qui leur permet de passer devant dans ce match. À la suite, ce soir, Marseille et Monaco, donc je le disais, jouent leur avenir européen avec des rencontres respectivement face à Galatasaray et face à l'Union Saint-Gilloise. De belles rencontres également ce soir avec un Barcelone-Francfort et l'Inter Milan face à Liverpool, en grande difficulté ces dernières semaines et avec des problèmes désormais aussi extra-sportifs qu'on évoquera potentiellement avec Matteo, notamment en fin d'émission. Demain soir, ça sera au tour du Paris Saint-Germain, deuxième de cette phase de ligue derrière Arsenal, qui affrontera l'Athletic Bilbao à San Mamés à 21h. On retrouvera habituellement Nice, Lille et Lyon en Ligue Europa jeudi soir, avec des rencontres respectivement face à Braga, aux Young Boys de Berne et aux Néerlandais de Go Ahead Eagles. Et enfin, Strasbourg joue également en Conference League ce jeudi face à Aberdeen. Les Strasbourgeois, on le rappelle, deuxième après 5 journées. Donc voilà une nouvelle belle semaine européenne qui nous attend. Est-ce que, messieurs, ça va se poser devant nos clubs français ce soir en rentrant de l'émission?
Moi, je vais au cinéma. Donc, encore une fois, je vais commencer à regarder, bien sûr, les rencontres. Après, je vais devoir couper en plein milieu, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à de belles choses du côté des clubs français, notamment du côté de Monaco, qui n'a pas le droit à l'erreur, tout simplement parce que la prochaine journée, c'est le Real Madrid. Mmh. Donc, victoire quasiment obligatoire contre un Galatasaray qui a récupéré, Victor Osimhen quand même. On l'a vu dans les différentes statistiques, mais c'est pas du tout la même équipe avec et sans Osimhen. Hein. C'est simple, de toute façon, dernière rencontre en Ligue des Champions pour Galatasaray, c'est une défaite contre l'Union Saint-Gilloise, ouais, 2-0 sans Osimhen. Donc, en fait, c'est assez simple, c'est même pas que des défaites, c'est aussi une équipe qui ne marque pas sans Osimhen. Donc, il va falloir forcément faire attention à cette équipe de Galatasaray. Ouais.
Et on peut l'évoquer, donc, ces compositions qui sont sorties avec, pour Monaco, Radeki dans les buts, de la défense centrale composée de Kerrer, Salisu. Sur les côtés, on aura Van Dersen à droite et Henrique à gauche. Le milieu en 4-2-3-1, donc, les deux milieux, tout d'abord avec Zakaria et Camara. Plus haut, Golovin, Minamino, positionnés en numéro 10, et Akliouche formeront l'attaque avec Balogun en pointe. Et du côté marseillais, on aura un 3-5-2 avec Rouli dans les buts et une défense à 3 ou à 5 à voir, donc en fonction de l'animation, avec Emerson, Aguerd et Murillo qui vont former la défense à 3. Paixão et Wea au niveau des côtés, avec au milieu O'Reilly, Højbjerg et Vermeeren, et devant le duo d'attaque Aubameyang, Greenwood. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paul? Plutôt confiant pour ce match des Marseillais ce soir face à l'Union Saint-Gilloise?
Confiant à moitié, car quand tu vois la compo, encore un vieux 3-5-2 qui fait pas trop plaisir quand t'as vu le match contre Lille. Paixão qui est utilisé en tant que piston gauche, tu te dis que t'as payé un mec 35 millions pour qu'il soit piston gauche alors que t'attendais que ce soit un ailier créatif qui allait faire des différences. Donc, pas un match qui va être facile parce que, comme l'a dit Matteo, quand même, ils sont allés battre Galatasaray il y a deux semaines de ça, donc, c'est quand même une équipe qui va peut-être arriver en confiance, donc, ça va pas être un match facile, mais faut espérer encore gagner ce match parce que, en cas de victoire, ça pourrait apporter encore plus de confiance et surtout 9 points LDC, ça sera pas rien pour la qualification.
Ça, c'est sûr, puisque après, l'OM accueille Liverpool. Après, en janvier, bon, Liverpool, on le sait, en difficulté, mais ça reste Liverpool tout de même. Et puis après, un déplacement compliqué à Bruges, en Belgique. Et des petites surprises, je voulais évoquer rapidement, donc comme vous l'avez entendu à travers la composition, c'est que Pavard et Balerdi sont sur le banc. Donc, assez incompréhensible ces choix de Roberto De Zerbi. On verra si ça s'avérera payant ce soir à partir de 21h. Et puis on va continuer avec le foot. Et avec toi, Paul, on a suivi vendredi le tirage de la Coupe du Monde.
Et oui, car vendredi soir, il y a eu le tirage de la prochaine Coupe du Monde de football qui se déroulera aux États-Unis, Canada et Mexique. Et les Français n'ont pas été particulièrement épargnés. Ils affronteront le Sénégal, la Norvège et un barragiste qui sera soit l'Irak, la Bolivie ou le Suriname. Donc, pas un tirage très facile et va falloir s'en sortir, car quand même le Sénégal est gagnant de la CAN en 2019. La Norvège est comme une équipe qui monte en puissance et qui a des très bons joueurs. Et en finale, bah, une équipe qui peut être surprise, comme l'Irak, la Bolivie ou le Suriname, qui peut ne pas être très facile à jouer.
Et oui, donc comme tu l'as évoqué, c'est un petit peu une poule de la mort qui nous attend. Je sais pas ce que t'en penses toi, Mathéo, à travers ce tirage. Qu'est-ce que t'en penses, ouais, au vis-à-vis de, au vu pardon de cette phase de poule qui attend les Français, plutôt compliquée ou ça devrait le faire?
Bah alors techniquement sur le papier, vu que la Coupe du Monde a plus d'équipes, ça reste des poules plus faciles. On n'a pas véritablement de poule de la mort, mais les Français sont tombés dans l'une des poules les plus compliquées, ça c'est évident. Moi je pense que ça va plutôt nous donner des beaux matchs plus que des matchs véritablement compliqués. Ça va être des matchs pièges, donc ça va être des vrais bons tests. Après il faut rappeler que cette équipe de la Norvège, elle est très jeune, elle arrive à la Coupe du Monde avec un peu cette insouciance aussi qui leur a coûté des qualifications lors des dernières éditions. Donc à voir ce qu'elle peut faire. Moi, ça va me permettre de voir Antonio Nusa, donc forcément, je vais être très heureux. Et puis cette équipe du Sénégal, ça va nous permettre d'avoir peut-être un face-à-face, comme l'a tweeté le CM de l'OL, entre Niakate et Tolisso. Didier Deschamps ne peut pas nous priver de ça, donc forcément, on est content. Non, mais ça reste une poule très compliquée, avec en plus des équipes qui arrivent en forme. La Norvège a quand même fini première de son groupe, et d'une belle manière. Le Sénégal aussi, donc. À voir ce qui va se passer. La Coupe du Monde, c'est dans un peu plus de 6 mois. Tout ça a le temps de bouger.
Et est-ce que, au vu des formes actuelles, vous attendez plutôt une équipe plutôt favorite, je dirais, ou une équipe dont oui, vous attendez une grande présence et du beau jeu et des beaux résultats à travers cette Coupe du Monde, toi, Paul, par exemple.
Tu parles de la Coupe du Monde en général ou dans la poule?
Non, la Coupe du Monde en général.
Ouais. Honnêtement, l'Espagne part quand même assez favorite déjà par rapport à son Euro, clairement. Par rapport à comment cette équipe a évolué dans le depuis 2 ans, 3 ans même. Donc je pense que c'est une des équipes favorites. Toujours l'Argentine, par rapport au fait que c'est une équipe très solide et qui va faire beaucoup de mal à chaque équipe. Le Portugal aussi, avec ses joyaux, et puis même il y a toujours l'expérience. Et la France toujours, parce que mélange d'expérience, de jeunesse et surtout de qualité. Donc faut continuer comme ça. Donc je pense que c'est les 4 équipes assez mises en avant et qui sont les meilleurs, je pense, au monde actuellement. Et après, il y a toujours des équipes surprises, car on sait très bien que le Brésil, avec toutes les qualités qu'ils ont, sont capables de faire une très grosse Coupe du Monde. Les Pays-Bas aussi, c'est pareil, de très bons joueurs et qui peuvent faire aussi une très bonne Coupe du Monde. Donc, on espère qu'il y a beaucoup d'outsiders qui vont bien jouer et on espère une belle Coupe du Monde, parce que c'est ça qui fait la magie de ce sport, parce que c'est quand même tous les 4 ans et c'est pas pour rien.
Exactement, on aura de gros effectifs, de belles équipes et de beaux matchs également. On a notamment un Argentine-Algérie qui nous attend, qui va être assez savoureux pendant cette Coupe du Monde. Et puis on va se quitter avec une petite pause musicale pendant quelques minutes. Qu'est-ce que tu vas nous mettre, Mathéo?
C'est ça. Eh ben, je vais mettre un morceau issu de l'album Bitume Caviar Volume 2 d'Isha et Limsa, qui vient de sortir vendredi dernier. C'est tout frais. On va se mettre Fin de ce monde, finalement l'hymne presque de ce projet.
Ouais, c'est ce que j'ai.
Ils tiennent des propos dénigrants sur nos frères, sur les migrants. Les rois du monde, ils sont délirants. Il y en a même un qui veut bombarder l'Iran. Ils vivent comme des rois, des ducs et des vicomtes, et veulent nous faire croire que toutes les vies comptent. La police ne nous aime pas, donc nous l'évitons. On est des rescapés, on est sous, je le dis dans chaque morceau. Et là, tu vas pas y échapper. Je suis là depuis l'époque du 113 clan. Moi je rime qu'à où échapper. Et là, je veux qu'on me laisse rapper. Je suis content quand dans mon frigo y'a du shit. Je suis content quand dans mon frigo y'a du lait. J'ai fait des faux pas, faut pas m'aduler. Si peu d'essence, tellement de choses à brûler. Elle veut rentrer dans ma tête comme Babidi. Quand y'a du bon bédo et de la bébida, je me sens comme Tristan Cara et Pépita. Le talent ne suffit pas comme l'a dit Curdy. J'ai quitté Alice Cordy pour Annie Cordy. Nique ceux qui nous voient comme des animaux, qui viennent de Paname ou de la Picardie. Quand je les vois jeter tous mes refs du cargo, je ressens une maxi colère de la tachycardie. Imagine Maxi Lopez qui tachycardie. Quand je guette les infos, moi il faut 10 secondes pour maudire ce monde. Quand je guette les infos, moi il faut 20 secondes pour souhaiter la fin de ce monde.
Walim, ouais, ça, y'a toi qui sais. Pourquoi je parle pas ces derniers temps? Pourquoi j'ai mal ces derniers temps? Que j'écris moins ces derniers temps? J'avais plus d'inspi, mais merci Seigneur, t'as envoyé quelqu'un qui m'a brisé le cœur.
Trois Isha heureux. Ça rappe beaucoup moins bien qu'un Isha qui pleure et deux Isha qui pleurent. C'est beaucoup trop chaud, ça ramène tout Brooklyn comme quand B.I.G. meurt. Encerclé par des jeans mélancoliques qui m'encouragent à fuir et rester dans mon lit. Je croyais que c'était à cause du bilan, moi, mais j'ai arrêté de pédave depuis. Je retrouve toujours de la moisissure chaque fois que je découpe une tranche de vie. J'ai pas envie de parler business, pas envie de parler affaires. Tu vois pas qu'on est les damnés de la terre. Un petit Africain attaché au dos de sa mère avec un wax. C'est plus confortable quand les tantines ont grossi. J'avais la même pose que Valentino Rossi.
Quand je guette les infos, moi il me faut 10 secondes pour me dire ce monde. Hey. Quand je guette les infos, moi il me faut 20 secondes pour souhaiter la fin de ce monde.
Fin de ce monde, Isha et de Limsa Dolnay sur le 101.5 FM. On continue avec la suite, Robin.
Ouais, exactement, on va continuer avec le mondial féminin de handball que va nous présenter Paul, tout de suite.
Et oui, car la semaine dernière, on avait montré les résultats des Françaises face à la Chine et la Tunisie. Et du coup, je vous avais dit qu'elles devaient jouer leur dernier match de poule du coup le soir même. Et du coup, elles ont gagné contre la Pologne 42-28, un troisième succès de rang qui leur a assuré la première place du groupe F avant d'aborder le tour principal. Deux jours plus tard, à Rotterdam, les Bleues ont débuté cette nouvelle phase face à l'Autriche. Bousculées en première période, 14-12, elles ont trouvé le rythme après la pause pour s'imposer 29-17 et prendre les commandes du groupe 3 avec 6 points. Samedi, toujours à Rotterdam, les joueuses de Sébastien Gardiou disputaient leur cinquième match, cette fois contre l'Argentine. Une victoire 29-17 leur a permis de valider sans trembler leur qualification pour les quarts de finale. Restait un dernier choc hier soir face aux pays hôtes, les Pays-Bas. Une rencontre décisive pour la première place, mais en manque d'inspiration offensive, les Françaises ont concédé la défaite 26-23. Elles concluent donc cette phase principale au deuxième rang, juste derrière les Néerlandaises. Elles retrouveront désormais en quart de finale le Danemark, leur bourreau lors de l'Euro 2024, pour un duel à haute intensité prévu demain soir.
Exactement, demain soir à 20h45 pour ce quart de finale de nos Françaises face à une grande nation du handball, le Danemark. Donc affiche compliquée, mais on espère une qualification tout de même pour nos Françaises. Et puis on va enchaîner sans plus tarder avec tout d'abord la F1, puisque c'était le dernier Grand Prix de la saison ce week-end à Abu Dhabi. Avant le départ de la course, pardon, trois pilotes pouvaient encore devenir champions du monde. Lando Norris, leader du classement général, Max Verstappen et Oscar Piastri. Le Britannique avec 14 points d'avance sur le pilote de la Red Bull et 16 sur son compatriote à McLaren avant le départ. Il suffisait donc que Norris finisse uniquement sur le podium pour être sacré champion du monde. Samedi avait lieu tout dans un premier temps les qualifications et c'est Max Verstappen qui a décroché la pole, quasiment intouchable lors de la Q3, devant Norris deuxième et Piastri troisième donc. Le suspense était à son paroxysme dimanche avec le départ à 14h et lors d'une course plutôt faible en rebondissement, Norris n'aura pas réellement tremblé, outre l'investigation lors de son dépassement sur Yuki Tsunoda, qui aurait pu lui coûter 5 secondes de pénalité et donc le titre de champion du monde. Mais c'est finalement Verstappen au-dessus de tous lors de ce week-end qui s'impose devant Piastri deuxième et Norris troisième, donc champion du monde pour la première fois de sa carrière. On a suivi un petit peu la F1, messieurs, ou pas du tout? C'est peut-être pas votre sport de prédiction. On aurait aimé plus en parler avec Cédric, qui est un grand amateur de la F1, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots sur cette performance de Lando Norris ce week-end?
Bah c'est quand même très bien qu'on change d'hégémonie, qu'on change à minima de vainqueur quand même, parce que Verstappen a complètement tout pris hein, sur les quatre dernières années. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des nouvelles têtes, des nouveaux champions. Ça a été une grosse année pour McLaren, qui s'est fait peur quand même aussi. Parce qu'il y avait beaucoup d'avance quand même à la moitié de la saison et puis derrière a perdu un peu en régime, mais moi je trouve que surtout ouais ça fait du bien, c'est toujours sympa de voir des nouvelles têtes comme ça sur le on va dire la plus haute marche du podium des sports mécaniques.
Ouais, exactement. Et Paul, toi un petit peu, t'as suivi ce dernier week-end de F1 de la saison?
J'ai pas trop suivi, mais je vois Jean-Mathéo sur le fait que ça soit une nouvelle tête qui arrive en haut du classement de F1. Et même du coup, d'avoir quand même un classement qui, jusqu'à la fin, était serré et apportait quand même une dernière course qui était assez haletante. Du coup, en vrai, je trouve ça bien. Et puis même, c'est toujours assez intéressant de voir un nouveau gagnant sur un grand prix aussi intéressant.
Exactement, puisqu'on n'avait pas eu ce suspense depuis la fameuse polémique en 2021 et le premier sacre de Max Verstappen en tant que champion du monde. Ouais, les McLaren qui ont été au-dessus cette année, qui remportent d'ailleurs haut la main le championnat des constructeurs, si je puis dire, avec donc de très grosses performances pour Oscar Piastri et pour Lando Norris, avec tous deux 7 victoires cette saison, et Max Verstappen qui finit donc lui avec une 8e victoire. Et donc le début de la prochaine saison de F1, si je ne me trompe pas, c'est en mars 2026 que cette dernière débutera. Et puis on va enchaîner avec le biathlon, puisque ce week-end c'était le début des courses individuelles après les relais de la semaine passée. Et vendredi et samedi, donc, les biathlètes avaient rendez-vous avec tout d'abord le sprint et ensuite une poursuite dans la suite du week-end. Honneur aux femmes, puisque ce sont elles qui se sont élancées vendredi pour une course de 7,5 km sur la neige d'Östersund en Norvège, avec 2 tirs, un couché et un debout. Et c'est la Finlandaise Suvi Minkinen qui s'est imposée avec une très belle 3e place pour notre Française Océane Michelon. Samedi, c'était au tour des hommes de s'élancer pour 2 boucles de 5 km et une belle 3e place décrochée par notre Français Quentin Fillon-Maillet, juste derrière la doublette norvégienne Johan Olav Botten et Martin Uldal. Dimanche, place aux poursuites et avec un ordre donc défini en fonction des résultats et des écarts de sprint, puisque la poursuite, donc l'ordre et le classement et les écarts également de la poursuite se font en fonction des résultats du sprint précédent. Et donc Océane Michelon s'était lancée avec 20 secondes de retard en 3e position, mais n'a pas réussi à conserver sa place sur le podium. C'est l'Autrichienne Lisa Teresa Hauser qui s'impose et Camille Benet réalise la meilleure performance française avec la malheureuse 4e place. Du côté des hommes, également ce dimanche, Quentin Fillon-Maillet, notre meilleure chance française lors de cette course, s'est donc élancé en 3e position avec 14 secondes de retard sur le vainqueur du sprint Johan Olav Botten. Après une première partie de course plutôt compliquée pour le Français, que ce soit sur les skis ou au niveau du tir, avec notamment 2 fautes sur les 2 premiers tirs, il a poursuivi de façon d'une meilleure façon, si je puis dire, avec un 5/5 sur le 3e tir, puisque, pardon, je me perds totalement dans mes explications, puisque sur les skis ça s'est également bien passé et il est resté donc dans la course au podium. Et lors du dernier tir, tous les biathlètes concurrents à la victoire finale commettent tous au moins une erreur, sauf notre Français Quentin Fillon-Maillet qui sort donc seul en tête et qui remporte cette course du dimanche. Je sais que vous n'êtes pas non plus forcément des amateurs de biathlon, plutôt un petit peu plus Faustin, il me semble, qui n'est donc pas là ce soir. Mais voilà, c'est une belle performance, histoire de bien commencer pour Quentin Fillon-Maillet qui a bien performé déjà l'année dernière. Donc voilà, le week-end prochain, rendez-vous à Orfilsen pour la suite de cette Coupe du Monde de biathlon et cette 2e étape. Voilà, messieurs, on va évoquer avec toi, comme on en a parlé tout à l'heure, le cas des extra-sportifs du côté de Liverpool, avec notamment Salah, le cas Salah qui a beaucoup fait parler ces dernières heures et ces derniers jours.
Oui, parce que c'est un véritable séisme hein, sur les bords de la Merdzé. L'information est tombée, Mohamed Salah ne sera pas du voyage en Italie pour affronter l'Inter Milan. L'attaquant égyptien a été purement et simplement écarté du groupe par son entraîneur Arne Slot. Une décision forte, disciplinaire, qui intervient dans un climat de tension extrême au sein du club. Tout part du week-end dernier, après le nul concédé face à Leeds. Frustré par sa situation, lui qui a été déclassé hein, sur le banc lors des dernières rencontres, Mohamed Salah a exprimé publiquement son mécontentement en zone mixte. Il a déploré l'absence de relation avec son entraîneur et a affirmé avoir le sentiment que la direction cherchait à le pousser vers la sortie. Si l'on a vu le joueur tout sourire à l'entraînement lundi, la sanction est tombée quelques heures plus tard. Arne Slot, soutenu par sa direction, a choisi de se passer de son meilleur buteur, estimant que si un joueur a le droit d'avoir des états d'âme, il ne peut pas les partager ainsi publiquement. L'avenir s'écrit en pointillé donc pour Mohamed Salah à Liverpool, même si Arne Slot n'a pas définitivement fermé la porte à un retour. La situation semble critique entre la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive et l'ouverture du mercato hivernal où les sirènes de l'Arabie Saoudite risquent de résonner à nouveau. On assiste peut-être au dernier jour de l'histoire d'amour entre le Pharaon et les Reds. Une rupture hein, qui rappelle tristement le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United il y a 3 ans par exemple. Alors qu'est-ce qu'on en pense autour du plateau? Est-ce que c'est un juste traitement du cas Mohamed Salah, qui effectivement a eu des phrases, qui a eu des sorties médiatiques, mais derrière a quand même été déclassé, et puis c'était quand même quelque chose qui était dans les petits papiers depuis pas mal de temps, vu qu'il était déjà sur le banc, Paul.
Moi, je pense que c'est un juste traitement, car comme il est dit par les plus grands clubs, aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. Donc je pense que Liverpool l'a rappelé, l'a montré Mohamed Salah, que des propos comme ça ne doivent pas être sortis dans la presse, et encore moins après trois matchs où tu as été mis sur le banc, parce que il fait pas un début de saison exceptionnel, on va pas se le cacher, que le Mohamed Salah qu'on avait l'année dernière n'est plus vraiment là, on voit plus le même joueur qui met de l'avant, qui va jouer tout le temps avec ses coéquipiers, on voit plutôt un joueur qui, dès qu'il a la balle, le joue vers l'arrière. Du coup, c'est un peu dommage, parce qu'il était très 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 bon l'année dernière, donc c'est comme ça. Mais maintenant, je pense qu'il va accepter, il va peut-être nous prouver que ce qui s'est passé est une erreur de parcours et qu'il peut revenir. Enfin, je l'espère surtout, parce que quand même, Mohamed Salah à Liverpool, c'est 10 ans, quasiment 10 ans maintenant, et pour un passionné de football, on a quasiment vu, enfin c'est quasiment l'image de Liverpool sur les dernières années. Donc j'espère pour lui que le club acceptera qu'il revienne dans le groupe et qu'il nous montrera quel joueur incroyable il est.
Ouais, Salah, hein, qui là pour l'instant en ce début de saison a marqué 5 buts, délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues, c'est loin des standards. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est vraiment la situation de Liverpool actuellement qui fait que Salah est dans ce niveau-là, parce qu'il avait une forme exceptionnelle quand même la saison passée, ou c'est purement une logique d'âge, une logique d'ailier aussi, une logique de première ligue qui est un championnat quand même qui pèse sur le physique des joueurs, Robin?
Je pense pas forcément que c'est lié aux mauvaises performances. Ça impacte peut-être les mauvaises performances. Enfin, ça joue au niveau des mauvaises performances du côté de Liverpool, mais je pense pas vraiment que ça soit lié, parce qu'on a vu qu'il une baisse de son niveau de performance et petit à petit qu'il s'est éteint, notamment depuis l'élimination face au Paris Saint-Germain en février ou en mars. Mi-mars. Donc après le retour face à Anfield, face au PSG, je m'emballe totalement. Donc j'espère forcément retrouver, parce que Mohamed Salah, voilà, on a grandi avec cette image d'un joueur qui a été très performant pendant de nombreuses années, comme l'a dit Paul, qui est un petit peu l'image de Liverpool. Donc est-ce qu'il va réussir à revenir à un niveau qu'il avait l'année dernière? J'en doute franchement, parce que là il manque de rythme. Voilà, on sait qu'il y a une cassure aussi au niveau psychologique, ça risque, même s'il est réintégré dans l'équipe, ça risque de peser. Moi je lisais avant de venir aussi que ça semblait être acté en interne que Liverpool voulait se débarrasser cet hiver de Mohamed Salah. Donc voilà, on a vu notamment des déclarations, il disait qu'il invitait ses proches à venir face à Brighton ce week-end, parce que c'était potentiellement son dernier match à Anfield. Donc voilà, triste fin d'histoire, comme tu l'as dit, avec qu'on a pu voir ces dernières années avec Cristiano Ronaldo. Donc moi ça m'attriste. Voilà, j'ai été un grand suiveur de Liverpool, notamment au niveau de la Première Ligue. J'ai beaucoup aimé ce joueur, j'aime toujours beaucoup ce joueur, mais là comme l'a dit Paul, aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. Donc ça m'attriste vraiment. On espère qu'il puisse rebondir, que ça soit en Arabie Saoudite ou autre part, mais malheureusement l'histoire avec Liverpool semble être terminée.
Ouais, un déclassement qui a quand même été très rapide. Ça reste un joueur quand même qui était à une passe décisive des 90 passes D en Première Ligue, 250 buts avec Liverpool en Première Ligue. Est-ce que c'est pas, on parlait d'hégémonie tout à l'heure, est-ce que c'est pas le joueur le plus hégémonique tout simplement sur les 10-15 dernières années en Première Ligue?
Ouais, je pense quand même c'est un des joueurs quand même qui a été le plus décisif, comme tu le dis, mais c'est aussi un joueur qui a porté son équipe quand même. Enfin, Liverpool n'avait pas gagné le titre de PL depuis plus de 20 ans. Il regagne en 2020, il regagne l'année dernière. Donc c'est quand même un symbole. Il regagne aussi la LDC avec lui en tant que joueur phare quand même, parce que quand même l'équipe qu'ils avaient en 2019 est exceptionnelle, mais ça là on contribue beaucoup. Donc oui, je pense que comme tu le dis, c'est un joueur hégémonique qui comment dire, l'image d'un club, et ce club qui défend tout le temps, c'est Liverpool. Et voilà, faut espérer que ça se finisse pas comme Cristiano, car ça en prend la tournure. Mais est-ce que ça se passera comme ça? On ne sait pas. L'avenir nous le dira. Mais en tant que fan de football, je n'espère pas, parce que vu la cassure qu'il y a eu entre Cristiano et Manchester, malgré l'histoire d'amour qu'il y a eu pendant des années entre les deux, faut espérer que ça se passe pas comme ça.
C'est vrai que ce serait dommage. Et puis Salah, c'est quand même, oui, effectivement, le joueur qui nous a fait rêver pendant des années en première ligue quand même, cette génération de joueurs qui est venue remettre Liverpool aussi sur la carte de l'Angleterre. Donc on verra ce qui se passera durant les prochaines semaines. C'est à surveiller. Donc du côté des Reds. Et puis, toujours dans le football, la justice turque a décidé de frapper très fort hier en ordonnant le placement en détention provisoire de 11 joueurs professionnels. Une véritable affaire d'État. Parmi ces 11 joueurs incarcérés, on retrouve des pensionnaires de première et de deuxième division. Et les accusations sont gravissimes. Pour 9 d'entre eux, il leur est reproché d'avoir parié sur les matchs de leur propre équipe, ce qui constitue une atteinte directe à l'intégrité de la compétition. L'enquête ne touche pas seulement les divisions inférieures des clubs historiques comme Galatasaray, Fenerbahçe ou Konyaspor, voit certains de leurs joueurs cités dans le dossier. On parle ici de profils variés, allant du défenseur de Galatasaray, Metehan Baltashi, au milieu de terrain de Fenerbahçe, Mertakan Yandaz, accusé pour sa part d'avoir utilisé un tiers pour placer ses mises, une affaire qui ne se limite pas aux joueurs, et c'est tout le problème. Le système semble gangréné à tous les étages. Au-delà de ces détentions, la justice s'intéresse aussi aux dirigeants. Deux présidents de clubs de 3e division étaient incarcérés, soupçonnés de s'être entendus sur les résultats d'une rencontre la saison passée. Il s'agit d'un vaste coup de filet initié par le parquet d'Istanbul qui avait déjà conduit à l'arrestation d'une quarantaine de personnes la semaine dernière. La fédération turque a lancé une opération main propre d'une ampleur inédite. L'objectif est clair, assainir le championnat. Les chiffres donnent le vertige. Le mois dernier, près de 150 arbitres ont vu leur licence révoquée. Côté terrain, les sanctions pleuvent également, avec plus de 1000 joueurs évoluant de la première à la 4e division qui ont écopé de suspensions pouvant aller jusqu'à 1 an. Alors que Galatasaray s'apprête à jouer en Europe, le football turc se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tempête judiciaire et sportive majeure. Et moi, je vous pose la question, c'est quand même quelque chose qui revient de plus en plus dans le football aujourd'hui, dont on se rend de plus en plus compte, ces paris dont les joueurs sont à l'initiative. On a eu des affaires en Italie, on a eu l'affaire Paqueta aussi en Première Ligue. Bon, qu'est-ce qu'on en pense globalement, Robin? C'est assez triste, en fait.
Assez triste. Après, on sait que le problème, c'est que c'est forcément une façon facile, on va dire, de se faire de l'argent. Forcément, si on parie sur le fait qu'on va prendre tel carton jaune ou tel carton rouge à tel match, forcément, c'est une source d'argent plutôt facile. Mais c'est sûr que c'est triste, forcément, de se dire, par exemple, que on va devoir produire une contre-performance pour un club dont on est le salarié, finalement, pour se faire de l'argent de son côté. Non, franchement, c'est triste et ça ternit un petit peu l'image de ce sport. Mais on sait que, comme tu l'as dit, c'est de plus en plus présent ces dernières années. T'en as parlé avec Paqueta, on en parlait en off tout à l'heure pendant la pause musicale, qui a eu encore un comportement très suspect face à Liverpool. Donc c'est sûr que ça ternit l'image de ce sport. Voilà, on sait que c'est toujours un petit peu addictif et on sait que c'est une façon entre guillemets facile de se faire de l'argent. Je parle en connaissance de cause, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas du tout l'image que reflète ce sport. Donc c'est triste. Je sais pas ce que t'en penses toi, Paul, mais. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu me rejoins sur ce constat?
T'en rejoins totalement. Enfin, c'est un des problèmes, c'est un des fléaux, c'est l'addiction. Et là, comme tu le dis, Mathéo, enfin, quand même plus de 1000 joueurs sur 4 divisions.
C'est tout un système.
C'est un système énorme. C'est fou.
Puis oui, même les coachs, pas de carton jaune, ni rien.
Ah non, c'est vraiment un système. Ouais. C'est fou. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est quand même professionnel. C'est quand même la Turquie est quand même un des pays qui fait partie de l'Europe, qui fait partie quand même des équipes où il y a des bonnes équipes, comme Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Quand même, c'est des grosses équipes. Et pourtant, de voir ça, c'est quand même étonnant et c'est quand même fou. Parce que tu dis, bon, il y a des gars isolés, on va dire ça comme ça, comme Paqueta, Tonali, des joueurs connus, mais il y en a très peu. Enfin, il y en a peut-être certains qu'on n'a pas de suspicion, on sait pas du tout. Mais quand même, qu'il y ait 1000 joueurs, c'est énorme et je trouve ça étonnant. Et je trouve ça bien quand même que ça soit une affaire judiciaire qui soit prise en cours et qui soit prise au sérieux, car c'est quand même ultra décisif dans un match et dans une carrière pour un joueur, quoi.
Oui, ça nous permet aussi de redire, comme vous l'avez dit à nos auditeurs, faites attention avec les paris sportifs. Hein, quand on voit, moi ça me rappelle aussi, tu parlais de Tonali, mais Fagioli, c'était exactement la même chose, mais en pire, Fagioli, c'était presque compulsif, il pouvait pas s'en échapper. Donc on verra ce qui se passe en Turquie, la Turquie qui pourtant nourrit de grandes ambitions européennes. On a vu ça en début de saison avec Galatasaray qui était quand même dans le haut du panier de la Ligue des Champions, avec un Fenerbahçe aussi qui a été chercher Mourinho à une époque. Donc ça reste un championnat solide. On va voir ce qui va se passer là-bas.
Exactement. Et puis avant de terminer cette émission par un petit jeu que nous a concocté Paul, je vous informe juste de la fin du match entre le Bayern et le Sporting. Victoire 3-1 finalement. Donc du Bayern après sa défaite face à Arsenal. Donc le Bayern qui se relance en Ligue des Champions. Puis on va passer donc à ce petit jeu avec toi, Paul, que tu nous as concocté.
Et oui, donc on parlait de Turquie, on parlait de Galatasaray, et Galatasaray affronte Monaco ce soir. Du coup, messieurs, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pouvez me citer les 7 joueurs français qui sont passés par Galatasaray?
Ouh là, le championnat turc, c'est
Puis à chaque fois, c'est des fins de carrière, ouais. C'est des fins de carrière, généralement, surtout que nos joueurs français... Enfin, moi, j'ai vraiment des images de joueurs français là-bas, plutôt courant des années 2010. Et donc là, ouais, c'était vraiment ce déclassement fin de carrière. Bah moi, j'en ai eu un, parce que du coup, on en a discuté un peu, donc ça m'a permis de tricher un peu, de réfléchir vite fait. Moi, j'ai Gomis. Timbi Gomis.
Parce que pour le coup... l'un des plus connus, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est que, puis pour le coup, il a vraiment été performant là-bas. Il était dans un moment aussi où le football turc... montait en puissance, oui. Et donc forcément Gomis c'est un peu marquant, ouais.
Alors il y en a un qui est encore plus évident que Gomis.
Plus évident.
Lui c'est pas même pas une fin de carrière, c'est un peu pour relancer sa carrière.
OK, il joue quel poste?
Milieu gauche.
Milieu gauche.
Milieu gauche, il est français, il a évolué
milieu
gauche. Milieu gauche, il est gauche dans le côté gauche. Okay. Il a évolué à l'Olympique de Marseille, au Bayern Munich, à la Fiorentina. De quoi?
Bounassar.
Fiorentina. Il est...
Parce que Bounassar, il a été hybride quand même pendant
un temps. Mais non, c'est pas Bounassar.
Attends. Il a été formé... C'est quelle année?
De quoi? Qu'il avait joué là-bas?
Ouais, à peu près.
2000... Attends, pour être précis, je crois que c'est 2007-2008. Je suis pas très sûr. Je réfléchis, mais je suis plus très sûr quelle
Bayern
année.
Bayern Munich.
Mais il est français. Vice-champion du monde en 2006. Formé à Boulogne-sur-Mer. Il a joué à Brest.
C'est fou quand même,
Il a fini sa carrière à la Spezia.
Tu donnes tous les clubs.
Il a été impliqué dans une des affaires les plus connues en France avec Benzema.
Ah oui, on est très mauvais. Moi, j'étais sûr du plus récent. Ouais. Ah ouais, c'est honteux.
Ah oui, c'est honteux. Je n'ai aucune idée de l'image.
Je sais plus trop, mais je sais plus trop à ce moment-là. Je me suis rappelé de ça tout à l'heure. Et en gros, je sais plus s'il fait avant Marseille ou après Marseille. Ça, c'est un trou. Je crois qu'il fait,
avant pour moi.
Ouais, avant, ouais, c'est d'accord. Je crois qu'il fait Galatasaray, Marseille, Bayern. Ou là, ou c'est, je sais plus si c'est Marseille, Galatasaray, Bayern. Je sais plus.
Ça date, hein.
Donc, celui-là, c'est un des plus connus.
On était jeunes.
On a eu.
Ouais, voilà. Pour notre gouvernement.
Alors, ensuite, il y en a encore 3 qui sont assez connus, que vous connaissez, qui sont passés par la Ligue 1 et qui ont eu des bonnes carrières en Ligue 1. Et il y en a 2 qui sont pas trop connus, mais qui sont pas faciles à trouver, mais que vous pouvez peut-être trouver si je vous donne quelques indices. Donc, je vais commencer par les 2 moins connus, comme ça, ça ajoute un peu plus de suspense. Alors, il y en a un, il a joué aussi à Marseille. Donc, c'est un peu un lien entre Marseille quand même et Galatasaray. Mmh. Donc, il a joué à Marseille dans la fin des années 90, début des années 2000. Il a été prêté à Galatasaray. Il a été formé à Auxerre. Il a fini sa carrière à Cannes. Alors, pas très connu. Wow. Donc, vrai, je pense pas que vous allez l'avoir. C'est Sébastien Pérez.
Ok, ouais, non, je l'ai
aucune idée. Même moi, en faisant mes recherches et tout, j'ai découvert ce joueur.
Ouais, c'est ça. Petite référence à vous.
Et ensuite, on en a un qui est encore moins connu, je pense. Mais lui, il a une carrière un peu plus atypique. C'est qu'il a été formé à Nantes.
Okay.
Et ensuite, il est parti à Benfica. Il a fait un peu des clubs en Europe, il a du coup joué à Galatasaray et il s'est retrouvé en 2018 à Strasbourg où il fait partie de l'équipe du coup qui va gagner la Coupe de la Ligue et qui va du coup faire les tours préliminaires de Ligue Europa après. Donc pas trop connu aussi.
Quel poste ?
Latéral gauche, français.
Il a joué à Metz ?
Je ne crois pas, mais je vérifie, mais je crois pas.
Latéral gauche, putain, à cette époque-là, qui était latéral gauche à Strasbourg ?
Qui a gagné la Coupe de la Ligue.
Ouais, il a même joué à 3 pendant sa période. Enfin, il fait du coup Nantes, Benfica B, 3, Galatasaray, Séville, Strasbourg, et il finit sa carrière. Enfin, il est toujours à carrière e-sport.
Hein? Oula.
D'accord.
Ah oui, en.
Fin de carrière à carrière e-sport.
Ah oui.
Ouais.
Ok. Là.
Pas trop connu du tout.
Donc,
Lionel Carole. Donc, très peu connu.
Sur le banc, très certainement, avec Strasbourg.
Ouais, je crois. Ouais. Okay. Donc, dans la rotation.
Aucun souvenir.
Ouais, moi non plus.
Donc, ça, c'était les 2 moins connus. Mm-hmm. Les 3 autres, c'est sûr. Enfin, Mathéo, il y en a 2 que tu vas avoir à coup sûr.
Lyonnais, sûrement.
Ouais. Il y en a un qui a été.
Il y en a un, je me demande. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais.
Il y en a un, il joue à Nice actuellement. Il a joué à Tottenham. il a joué à Lyon.
Ah, c'est Ndombele, oui.
Voilà.
Oui, c'est Ndombele. Oui. Ouais. Ok.
Et il y en a un, du coup, il a arrêté sa carrière dernièrement. Il a joué à Nantes. Mmh. Il est latéral droit. Il a joué à Lyon. Et ensuite, il est allé, du coup, en Turquie, à Galatasaray. Il a été capitaine de Lyon. Beaucoup décrié.
Léo Dubois.
Ah, c'est voilà. Oui, c'est Léo Dubois.
Bah, Léo oui, Dubois.
Léo Dubois.
Ah ouais. Oh, j'avais oublié ce mec. Ah, pitié.
J'ai
jamais des images de Léo Dubois comme ça.
Hein, capitaine de Lyon, quand même.
Ah ouais, non.
Et enfin, on a un gardien français. Souvent dans l'ombre des Mandanda et des Lloris en équipe de France, qui a joué à Montpellier. Très connu pour une altercation avec Tolisso une année.
De quoi? Geoffroy Jourdan.
Non.
L'altercation avec Tolisso, c'est Geoffroy Jourdan.
Non, je me suis trompé, pardon.
Ah oui.
Qui a joué à Bordeaux.
Un peu gros.
Un peu costaud.
Ouais, c'est Carasso.
Voilà. Je me suis trompé avec Jourdan.
Cédric Carasso.
Ah, t'as dit gardien de but?
Oui, gardien de but.
Ah, j'avais pas entendu, pardon. J'étais sur un
Il était souvent dans l'ombre un peu. Mais je me suis trompé avec Jourdan.
Carasso.
Et du coup voilà, c'est les 7 joueurs qui sont passés par Galatasaray qui sont français.
Okay. C'est vrai que
ça c'est mon premier petit jeu. Deuxième.
Pas facile, hein, Galatasaray.
Ah non, ouais, Galatasaray pas facile. Hein.
Il y en avait deux vraiment et après les autres c'était quand tu donnes des indices, ça vient souvent mais ça met un peu de temps.
Il y a beaucoup de Belges qui sont passés par Galatasaray.
Ouais, parce que j'ai plein de joueurs,
Mertens et tout.
Puis t'as plein de joueurs qui ont été beaucoup, naturalisés aussi dans d'autres.
Puis beaucoup de joueurs, j'avais, je sais pas pourquoi, j'avais l'image de Jean-Michel Seri, des trucs comme ça,
joueurs. Seri, mais du coup, il est
ivoirien.
Ouais, il est ivoirien.
Il est pas français.
Donc c'est les binationaux un peu.
Il y avait pas Nzonzi quand même.
Nzonzi aussi. Non,
il semble qu'il a joué.
Non, il a joué. Je crois il a joué à Beşiktaş lui.
Il me semble.
Ah ouais. Pour moi, il a joué à Galatasaray.
C'est vrai que j'ai une petite idée, une petite image de lui.
Ah moi j'ai Fenerbahçe.
Ça se vérifie.
Fenerbahçe, ça se tente en vrai.
Ouais.
Ah Fenerbahçe, ça se tente.
Ouais. Mais il y a Fenerbahçe, ouais, je crois.
Ah ouais. Donc deuxième petit jeu. Vous savez très bien que ce week-end on a un magnifique derby entre Angers et Nantes. Du coup, j'avais envie de revenir sur un des derbies qui a marqué un peu quand même le SCO. De quoi?
Nzonzi.
Galatasaray.
Exactement.
Après, ah ouais. Ok.
Bien joué.
Bah, je l'avais pas celui-là. Je l'avais pas trouvé. Bah bien joué.
Ah ouais.
Du coup, il y a 10 ans de cela, le SCO était remonté en Ligue 1, et du coup c'était le premier derby entre le SCO et Nantes en Ligue 1 depuis plus de 20 ans. Du coup, je vous demandais de retrouver la composition des deux équipes.
Ouh, très très bien ça.
Ok. Surtout que celle du SCO, je pense que vous allez en avoir des faciles et des plus durs parce que certains ils sont un peu.
On fait chacun notre tour. Qu'est-ce que t'en dis, Mathieu?
Ouais, je suis chaud. On peut faire ça.
Qui commence par le gardien?
Alors les Nantais, je vais être mauvais, mais le gardien Ludovic Butel.
Ouais.
Ah, faut qu'on fasse les Nantais aussi.
Ouais.
Les Nantais.
Il y a des surprises.
Les Nantais, Papi Djiloboji.
Alors, je vais te le sortir.
Oh là 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 là. Franchement, s'il était là.
Djiloboji.
Ah là là.
Et non.
Ah, vas-y.
Aïe, 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 aïe.
Djiloboji, non.
Ah, il a dû arriver
un
après.
Un qui est à peu près dans les mêmes noms. Donc, Butel, t'as dit?
Ouais. Bah, après, je vais enchaîner classique avec Romain Thomas.
Ouais. Bah, moi, Ismaël Traoré.
Voilà.
Vincent Manceau.
Tout à fait.
Thomas Mangani.
Ouais.
Est-ce que. J'ai un petit doute. Bon, on va dire classique Nicolas Pépé.
Je sais pas s'il était
Nicolas
là.
Nicolas Pépé n'était pas encore là. Il était pas déjà là.
Il est arrivé un an après pour moi.
Aïe, 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 terrible. L'erreur.
Moi, je suis en train de chercher le 9 à l'époque parce que c'était juste après Kodjia.
Ouais.
Juste après Yatara.
Ouais.
Et alors, qui était. C'était Kekteo Fonfon. Kekteo Fonfon.
Alors, Kekteo
Fonfon n'était pas numéro 9. Il était ailier droit sur le match.
Ah, ok. Ah, ouais, donc il était là.
Je pense qu'il était plus bas aussi.
Donc après, t'as encore, vous y vous manque.
Famara Diédiou en neuf.
De quoi?
Famara Diédiou
était pas encore là aussi, mais c'est vrai que c'était la période.
Non, j'allais dire. Mais
il manque encore le
6,
le numéro 8, capitaine qui était à côté de Mangani, le numéro 9, l'ailier gauche, et latéral gauche. Le latéral gauche, il est actuellement coach de l'équipe U19.
Johan André.
Voilà.
Johan André, bien vu.
Et après. Est-ce qu'on n'aurait pas ouais mais je pense qu'il est pas arrivé parce que je voulais tenter Jonathan Bamba mais il arrive bien plus tard
il est
que ça.
Comme Pépé il arrive
c'est d'après. Ça c'est d'après
non bah
et Kodji à part avant la montée
c'est ça
il part à Bristol je crois
Bristol après il fait Villa
c'est ça non moi je pense qu'on peut avoir est-ce qu'il était là encore à ce moment-là Olivier Aurillac
alors Olivier Aurillac était là mais il était sur le banc
Charles Diarre 106
alors Charles Diarre était là aussi mais sur le banc.
Et donc, il manque le capitaine.
Il manque le capitaine.
Au milieu, Shakenday.
Voilà.
Forcément. Ah, putain, ouais, d'où?
Forcément.
Ah, bah oui, carrément. Putain, je l'avais oublié. Toutes les histoires de procès et tout, là.
Ouais, c'est vrai.
Ça fait chier, quand même.
Dommage.
Tellement fort pour un
Il était vraiment fort. Et après, donc, côté Angevin, il manque.
Le numéro 6. Alors, je vais vous donner un petit indice. Il est marocain.
Ah, c'est Romain Saïs.
Voilà. Oh, Romain Saïs. Ouais, parce que moi, j'ai l'image de défense centrale. Maroc, Coupe du Monde 2022, énorme. Mais c'est vrai que numéro 6.
Alors ensuite, Osco, il vous manque encore le numéro 9, qui a fait les beaux jours lors de la montée et qui a fait beaucoup de bien pour son expérience. Il a joué à, si je me trompe pas, à Arsenal. Il a marqué genre le premier match de la saison contre Montpellier.
Oh la vache. Il joue à Arsenal.
Oui.
Non, ça me dit un truc.
Ils sont allés le chercher à Arsenal?
Non, je crois pas. Mais je sais qu'il a joué à Arsenal. Ça, je m'en rappelle très bien.
Ok. Waouh. J'ai pas attendu. Oh, 9.
Ouais, c'est dur.
Moi, pour moi, c'était vraiment
Il était lié, mais pendant des années, il a joué au SCO. Il a été après remplaçant pendant la période des Bamba, des Pépé. Mais à ce moment-là, il était numéro 9 titulaire.
Oh là là, ça peut être qui, putain? Oh là là, et c'est évident.
Un peu. Enfin, quand t'as suivi le SCO à cette période-là, c'est un mec que tu te rappelles. Enfin, c'est un peu une évidence.
Ah putain.
Parce que là, ça m'énerve, mais.
Et oui, mais il y a un truc.
Arsenal Angers, direct, j'ai rien à délayer.
Oui, mais c'est un autre avant. Vous l'avez pas? Ça commence par un S, son nom de famille. Son prénom, c'est Gilles.
Ah, Gilles Sounou.
Ah, waouh!
Oh la vache, Gilles Sounou. En plus, tout à l'heure, j'y ai pensé.
Et après, tu te dis, oh mince.
Oh mec, j'avais oublié ce mec. Hein.
Tout à l'heure, j'y ai pensé. J'étais avec Baoken Sounou et puis je suis passé à autre chose. On est passé avec les milieux et tout.
Ah putain,
ah,
mais
oui, Gilles Sounou.
Sur Gilles Sounou.
Gilles Sounou.
Waouh.
Et l'ailier gauche, c'est un peu moins connu. Ouais, mais tu vois, en plus, l'expérience qu'il a apporté à cette équipe, donc il a fait du bien. Et l'ailier gauche, c'est un peu moins connu. C'était Camara qui jouait un peu comme Sounou. Ils échangeaient un peu. Il était un peu numéro 9, mais
oui.
Du coup, c'était un peu la paire.
Oui, et au niveau des Nantais.
Et niveau des Nantais, du coup, vous n'avez pas donné un
nom
seul.
Évident.
Alors, il y a des noms très évidents.
Il y a Palois qui était déjà là.
Non, il était encore à Bordeaux à ce moment-là.
Ah,
parce que Dubois, il était là.
Dubois était là.
Et Rongier, il était là.
Rongier était là. Il y en a un qui joue actuellement. Je sais pas. Attends,
le gardien de.
Il y en a un qui joue à Lens actuellement. Qui fait des très beaux jours de Lens actuellement, qui a joué à Strasbourg après à Nantes, qui est numéro 8 actuellement et qui joue un peu sur le côté à cette époque-là, qui a marqué un superbe but contre Arsenal il y a 2 ans.
Avec qui?
Ah, mais
avec
pourquoi j'ai
Lens.
Pas son nom?
Avec Lens.
Mais il a joué à Strasbourg? Bah,
oui,
Thomasson.
Voilà.
Ah, bah oui, putain, oui.
Oh là là, j'ai nul.
Thomasson est nul, ouais.
Thomasson.
Ensuite, au gardien, c'est un gardien qui a joué, si je me trompe pas, à Lyon.
Ouais, c'est Rémi Rioux.
Voilà.
Ouais. Rémi Rioux, classique.
Ensuite, en défense, il y en a un qui a joué à Guingamp après. Je crois qu'il a quasiment fini sa carrière à Guingamp, parce que j'ai pas de souvenir de lui après.
Est-ce qu'il a une grosse barbe et tout, là?
Je crois qu'il a une grosse barbe et il est chauve surtout.
C'est pas
clair. Ah non, je l'ai pas, non, non.
Guingampé.
Se rappeler
plutôt évident ou
Un peu évident quand même, parce qu'il a fait, bah, comme je l'ai dit, pour
grosse carrière à Guingamp.
Pour Thomasson, il a fait les beaux jours de Guingamp. Du coup,
je sais pas, j'ai beau vu dans ma tête.
Non, ça c'est l'attaque, il est défenseur.
Ah oui, c'est pour ça. défense.
Moi, ça me dit un truc, ça me dit un truc.
Un chauve.
Ah putain.
Nationalité?
Français. Son prénom, c'est Lucas.
Alors là, je n'ai.
Moi, je vois à quoi il ressemble. Et...
Lucado.
Ouais, Lucado. Oh, bah oui.
Oui, oui, effectivement.
C'est vrai, c'est vrai.
Lucado, putain, ah, c'est vieux. Hein. Ouais, ah, ouais. C'est tellement vieux.
C'est vieux, c'est vieux. Bah, 10 ans.
Je pense que celui qui l'accompagne et le latéral gauche, ça va être compliqué de l'avoir, c'est Gigi. Donc, lui aussi.